Frères et sœurs, dans le Messie Yeshua, je bénis l'Éternel, notre Dieu, notre Père à tous, qui nous a donné la grâce de dispenser de sa parole. Que son nom soit loué et glorifié. Éternel, notre Dieu, notre Père, me voici encore devant ta face pour méditer et partager ta parole. Seigneur, je prie la paix. Que tu me donnes la grâce de dispenser droitement de ta parole. Que je sème la cohésion et non la confusion. Que j'amène la lumière au lieu des ténèbres, Seigneur, afin que nous tous nous soyons édifiés et éclairés et que nous avançons vers l'unité de la foi. Père, élève de nouveau ton Fils, afin que nous puissions le connaître tel qu'il est réellement. Merci Père, dans le nom de Yeshua, amen. Donc nous entamons la troisième et dernière partie de notre réflexion sur le Messie, Yeshua. Et comme lui-même il a dit dans Jean 6, je cite le verset 45 et 46, il a dit que Moïse, Moshé a écrit de lui. Donc si Moshé a écrit de lui, donc nous devons trouver dans les écrits de Moshé et dans les écrits des prophètes et des psaumes, hein, ou bien dans le Tanakh, les traces du Messie Yeshua. Donc c'est ce que nous allons démontrer par les lectures que nous ferons. Voilà. J'espère vous avoir éclairé un peu plus sur qui est Yeshua. Je ne prétends pas le connaître entièrement, en tout cas tel qu'il est réellement. Mais la connaissance vient par révélation. C'est pourquoi dans Paul, dans ses écrits prières, je pense que c'est pour les Éphésiens, pour qu'ils puissent avancer dans la connaissance de Yeshua par révélation. Et je prie, moi aussi, que l'Éternel, notre Dieu, vous révèle son Fils, puisque Yeshua lui-même a dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui il le relève. Il le révèle, révélé plutôt, révélé, il le révèle. Donc, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas ce que je dirais qui est important, mais ce que l'Esprit de Dieu vous dira à travers ce que vous allez écouter par cet audio. Et j'espère que ce sera de grandes révélations pour vous que vous partagerez avec moi et avec les frères et sœurs dans le Messie Yeshua. Que son nom soit béni. Lisons d'abord dans Genèse 12, le verset 7. Comme d'habitude, donc je lis dans la tradition de Zadok Khan. Zadok Khan, la tradition rabbinique. Même si c'est quelqu'un qu'on a soupçonné d'être messianique. Voilà, on l'a soupçonné de ça à cause de la tradition qu'il a faite de AG2, le verset 9. Donc, je lis Genèse 12, le verset 7. Ça concerne notre père, le père de la foi, Abraham. Il ne s'appelait pas Abraham à l'époque, à ce moment-là, mais il s'appelle Abraham. Père élevé, Abraham. Le verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta postérité que je destine ce pays. » Apparu, en hébreu c'est Ra'a. Donc Abraham a vu de ses yeux. Si vous allez dans Strong et que vous voyez le verbe apparaître ou voir, c'est que Abraham a vu quelque chose, a vu quelqu'un, a vu une image, a vu quelqu'un, une personne, une représentation. Ce n'était pas une vision. Quand il s'agit de vision, la Bible le précise, comme dans Genèse, je pense que c'est 15. Hein. Bon, allons-y, Genèse 15. Genèse 15. Oh non, ça c'est la parole. Voilà, ça c'est la parole. Après ces faits, Genèse 15, le verset 1. La parole du Seigneur se fit entendre à Abraham dans une vision en ces termes. Donc, comme l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ça ne dépend que de lui. Et cette fois-ci, il n'était pas apparu à Abraham, mais il lui a parlé dans une vision. Genèse 17, Genèse 17, le verset 1 toujours, 17, le verset 1. Abraham étant âgé de 90 ans, 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, conduis-toi à mon gré et sois irréprochable. De la même manière apparaît ici, c'est Raa. Raa, donc Raa, c'est que Abraham a vu une manifestation, une représentation, une personne. Ce n'était pas une vision. Comme je l'avais dit précédemment, si nous prenons cette parole et que nous le comparons avec ce que Yeshua lui-même a dit, parce que la Bible nous informe que la grâce et la vérité sont venues avec Yeshua. C'est ça, sachons cela. Et que l'homme ne peut pas, quand Moïse a demandé à l'Éternel Dieu de le voir, l'Éternel lui a dit que l'homme ne peut pas le voir et vivre. C'est impossible. Et la Bible nous dit que Dieu est invisible et habite une lumière inaccessible qu'aucun œil n'a vu et ne peut voir. Et Yeshua lui-même a dit à ses contemporains, à ses que personne n'a jamais vu le Père, Dieu. Personne n'a jamais vu Elohim. Et que c'est le Fils qui était au sein qui l'a fait connaître. Mais donc, toutes ces années que Abraham, Moïse, tout ça là, donc ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu le Père, ils n'ont pas vu Elohim. Celui qu'ils avaient vu, c'est l'image d'Elohim qui est Yeshua, qui va venir, qui va venir dans ce monde en tant que Yeshua. C'est ça, en tout cas, c'est la Bible qui le dit. Hein. Je ne dis rien qui est contraire à la parole. Ça ne pouvait être que ça. Ça ne pouvait être que ça. Sinon, sinon la Bible se contredit. D'accord? La Bible se contredit. De la même manière, quand nous lisons dans le chapitre 18 de Genèse, on nous dit que l'Éternel se révéla à lui dans les plaines de Marée, tandis qu'ils étaient assis à l'entrée de Sodome. Examinons vraiment, c'est un verset, un chapitre capital. C'est Genèse 18, 1 jusqu'au 19, 1. Mais nous n'allons pas tout lire. Hein. Nous allons lire l'essentiel. L'Éternel se révéla donc à lui dans les plaines de Marée, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, et comme il levait les yeux, regardait, il vit trois personnages debout près de lui. En les voyant, il courut à eux du seuil de sa tente et se prosterna contre terre. Donc Abraham a bien vu trois personnages. A vu, hein? C'est la Bible qui le dit, trois personnages. Et il dit Seigneur. Seigneur, c'est au singulier. C'est étrange parce que Abraham devait normalement. Devait normalement saluer les trois comme Seigneur parce que c'est des êtres angéliques. Et nous savons que un être humain peut être désigné, peut être appelé Seigneur parce que Sarah appelait Abraham Seigneur. Et dans les Écritures, c'est avec un petit s. Et également, nous voyons que des juges. Des divinités peuvent être appelées Elohim, mais avec petit e. Et il dit Seigneur. C'est comme s'il a reconnu l'un des personnages qu'il appelle Seigneur, puisque ce personnage lui était déjà apparu auparavant dans les versets, dans chapitre 12, le verset 7, chapitre 17, le verset 1, chapitre 15, le verset 1, Et également l'expérience sur le mont Morija avec la ligature de Isaac. Il a dit, Seigneur, c'est au singulier. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'a pas dit à vos yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur. J'ai expliqué que compte tenu du fait que Yeshua lui-même, qui a apporté la grâce et la vérité, a dit que personne n'a jamais vu l'Éternel, n'a jamais vu Elohim, n'a jamais vu le Père. Et que c'est lui qui a apporté la grâce et la vérité, c'est lui qui l'a fait connaître. Cela nous et qu'il est l'image du Dieu invisible, le représentant, et que lui et le Père sont un, et que dans même dans la parole de Dieu, il y a une permutation en permanence entre l'Éternel, l'ange de l'Éternel, ainsi de suite. La personne que Abraham a vu ne pouvait être que Yeshua. Et cela confirme ce que Yeshua lui-même a dit dans Jean 8. Il a dit, Abraham s'est réjoui de voir le jour. Il m'a vu et il s'est réjoui. Voyez, donc Yeshua a vu Abraham. Abraham aussi l'a vu. Ça ne pouvait être que ça. Ça ne pouvait pas être autrement, mes frères, mes sœurs. Comprenons le Seigneur que nous avons. La Bible nous dit dans Éphésiens 4 que nous avons un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit et que notre Seigneur Yeshua est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et lui-même a dit que personne ne vient au Père que par lui. Comprenons bien les choses, ce qu'il dit, et qu'il est venu du Père, il est sorti du Père et il est venu. Comprenez? Donc, Abraham. En disant Seigneur au singulier, il a reconnu celui qui venait à lui, qui venait à lui. Vous voyez que aussi Abraham ne cherchait pas ces visions-là, ou bien ne cherchait pas ces apparitions, comme aujourd'hui beaucoup de gens cherchent ces apparitions, mais l'Éternel Dieu venait à lui à travers donc Yeshua. En tout cas, l'être qui va venir comme Yeshua après. Qu'on aille quérir un peu d'eau, lavez vos pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter une tranche de pain pour réparer vos forces, puis vous poursuivez votre chemin, puisque aussi bien vous avez passé près de votre serviteur. Ils répondirent, et là, ici, les trois ont répondu. Fais ainsi que tu as dit. Donc, Abraham est allé préparer un repas. Un repas pour ces trois hôtes célestes. Voilà, il est préparé un repas. Voilà, donc c'est pour ne pas dire que c'est une vision que les trois là ont fait semblant ou bien. Bon, les commentateurs disent que comme c'est des êtres célestes, ils n'ont pas pu manger, qu'ils ont fait semblant de manger. C'est pour prouver à Abraham qu'il n'a pas eu de vision, il n'a pas eu de rêve, que c'était vraiment la réalité, comme cela s'est passé avec les anciens d'Israël dans Ésode. Dans Ésode 24, le verset 10 et 11. Le verset, bon, on va continuer, mais on ne va pas tout lire, mais je vous demande de lire entièrement. Le verset 9, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'eux reprit, certes, je reviendrai. En tout cas, c'est celui qui parle, c'est celui que Abraham désignait par Seigneur. Je reviendrai à toi à pareille époque, voici un fils sera né à Sarah, ton épouse. Alors, le verset 13, le Seigneur dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri, disant, et quoi, en vérité, j'enfanterai âgé que je suis? Est-il rien d'impossible au Seigneur, au temps fixé, pareil, je visiterai et Sarah sera mère. Donc, voilà la personne qui est identifiée comme Abraham, appelé Seigneur, a promis qu'il reviendrait vers lui et qu'il donnera un enfant et que Sarah serait enceinte, le miracle sera accompli. Le verset 16. Les hommes, en tout cas, on les appelait même des hommes parce qu'ils avaient un aspect humain. Le seul être céleste, divin, qui a été rendu semblable à un être humain, donc, c'est Yeshua. Se levaient et fixaient leurs regards dans la direction de Sodome, Abraham les accompagnant pour les reconduire. Or, l'Éternel avait dit, tairai-je à Abraham ce que je vais faire? Voyez, donc Seigneur à Éternel qui est là. Abraham ne doit-il pas devenir une nation grande? Voilà. Et puis, en lisons encore. Ok, allons-y, verset 20-22. L'Éternel dit, comme le cri de Sodome et de Gomorrhe est grand, comme leur perversité est excessive, je veux y descendre et je veux voir si, comme la plainte en est venue jusqu'à moi, ils se sont livrés aux derniers excès. Si cela n'est pas, j'aviserai. Les hommes quittèrent ce lieu et s'acheminèrent vers Sodome. Abraham était encore en présence du Seigneur. Donc Abraham a intercédé ici auprès de cet être qu'il appelle Seigneur Éternel, a intercédé. Voilà. Donc Abraham ne pouvait pas prier un ange. Vous voyez? Donc il a prié l'être qu'il a identifié comme l'Éternel, comme Seigneur, comme Dieu lui-même. Voilà. D'accord? Donc voilà. Et par la suite, nous comprenons que ce sont les anges, parce que dans le chapitre 19, les deux envoyés arrivèrent à Sodome le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. À leur vue, il se leva devant eux et se prosterna la face contre terre. Voilà. Et on nous explique dans ce chapitre 19 que ce sont des anges. Les deux autres sont des anges. Donc, il ne s'agit pas, comme certains l'ont dit hâtivement, disant, ah, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Mais non. Puisque la Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu et qu'on ne peut pas Dieu voir et vivre, Dieu voir Elohim et vivre, et que la Dieu habite une lumière incessante qu'aucun n'a vu et ne peut voir. Voilà. Donc ça, nous sommes la vérité est cohérente avec elle-même et la Bible est la vérité absolue est cohérente avec elle-même. D'accord? Dans le verset, on nous explique que ce sont des anges, hein, sont des anges, des envoyés de l'Éternel, sont des anges. D'accord? Donc voilà, on nous l'explique que ce sont des anges dans le verset 19. Hein? Donc c'est ça. Donc c'est donc il ne pouvait être que l'image par laquelle l'Éternel donc entrer en contact avec les êtres humains, c'est-à-dire l'être qui sera appelé plus tard Yeshua ou le fils d'Élohim, le fils de Dieu. Il ne pouvait être que ça. D'accord? On ne peut pas. Il ne pouvait être que ça. Parce que sinon, ben, c'est pas possible. Donc, c'est que la Bible est en contradiction avec elle-même. Or, c'est pas vrai. Dieu ne peut pas être en contradiction, sinon il ne peut plus être Dieu. Comprenons ce que nous disons. Si Dieu est en contradiction avec ses décrets, avec lui-même, il ne peut plus être Dieu. D'accord? Donc nous venons de prouver ici que Moïse a bien écrit de Yeshua et nous continuons encore à le prouver. Lisons dans Deutéronome 18 ce que, ou bien dans, bon, on peut lire dans Ésaude, hein? Ésaude 3 d'abord, bon, on va faire chronologique. Ésaude 3, le verset 14 et 15, nous l'avons déjà lu. Ésaude 3, avant de lire Deutéronome. Ésaude 3, le verset 14 et 15. Dieu répondit à Moïse, je suis l'être immuable, et il ajouta, ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël, c'est l'être immuable qui m'a délégué auprès de vous. Dieu dit encore à Moïse, parle ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous, tel est mon nom à jamais, tel sera mon attribut dans tous les âges. Voilà, c'est ce qu'il a dit, et oui, je suis. Je suis ce que je suis, ou je serai ce que je serai, j'étais ce que j'étais. Et Yeshua va s'attribuer donc cette parole avant qu'Abraham fût je suis. Il a dit, ou bien vous saurez que je suis. D'accord? Voilà, vous saurez que je suis. Voilà, donc c'est pourquoi ses contemporains ont voulu l'ont accusé de blasphème parce qu'ils disaient il se faisait Dieu lui-même. Voilà, Elohim lui-même. Voilà. Lisons dans Deutéronome, donc 18, le verset 15 à 19. Nous l'avons aussi lu tout à l'heure. Deutéronome, donc 18, nous l'avons lu. 18, nous l'avons lu encore. 18, le verset 15, donc à 19. C'est un prophète sorti de tes rangs, un de tes frères comme moi, que l'Éternel ton Dieu suscitera à ta faveur. Donc le prophète sera comme Moïse et plus que Moïse, suscitera en ta faveur. C'est lui que vous devez écouter, absolument comme tu l'as demandé à l'Éternel ton Dieu au mont Horeb. Le jour-là, le peuple avait tellement eu peur que le peuple a demandé un mandataire, un médiateur. Le jour de la convocation, quand tu as dit, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel mon Dieu, et ce feu intense, je ne veux plus le voir de peur d'en mourir. Et le Seigneur me dit alors, ils ont bien parlé, je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères. Donc le prophète ne pouvait être que d'origine hébraïque, juif de la tribu de Juda, puisque à Juda, le sceptre a été donné à Juda. Je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères, tel que toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et alors celui qui n'obéira pas à ces paroles qu'il annoncera à mon nom, c'est moi qui lui demanderai des comptes. C'est ce que Yeshua a dit à ses contemporains pharisiens qui contestaient son autorité et ses paroles. Il a dit, non, c'est pas à moi de vous accuser. Ben, vous dites que vous croyez en Dieu. Si vraiment vous croyez en Elohim et que vous connaissez ses paroles, vous devez aussi croire dans mes paroles. Puisque je viens de lui, je suis sorti de lui et je suis venu vous annoncer la vérité. La vraie interprétation de la parole des Écritures que vous avez tordue. Voilà, que vous avez tordue. Et ici, le peuple avait eu tellement peur, parce que la majesté était la puissance, l'autorité de Dieu était là, tellement que c'était un spectacle vraiment difficile à soutenir pour le peuple, et qu'ils ont demandé que ce soit un intermédiaire, un médiateur qui vient, qui porte la parole de l'Éternel. Donc voilà, donc la parole est venue, Yeshua est sorti de Dieu, est venu, mais quand même, ils l'ont rejeté malgré tout ce qu'il a fait. D'accord? Donc le prophète ne peut être que juif. C'est pourquoi Yeshua lui-même a dit que le salut vient des Juifs. Il ne peut pas être autrement. Il ne peut pas être autrement. Parce que Israël était l'échantillon de Dieu, le microcosme qui représentait donc le monde entier. Et ça ne peut pas être autrement. On ne peut pas faire régner un Togolais sur les Juifs, quand même. Écoutez, sur Israël. Hein? D'accord? Donc, notre prophète Yeshua est juif et il sera le roi des Juifs. Ou bien un de tes frères, du milieu de toi et pas ailleurs. Donc, s'il y a quelqu'un qui prétend être le dernier des prophètes, ce verset-là déjà l'élimine complètement. Ce verset l'élimine complètement. Donc nous avons vu que même dans la Torah, dans les écrits de Moïse, de Moshé, donc nous avons vu que le Messie était présent. Il a parlé du Messie, il a d'un prophète qui est comme lui, qui est au-dessus de lui également en même temps. Voilà. Et que ce Messie, ou bien ce prophète, parce que Yeshua a tous les ministères. Vous voyez? Il a tous les ministères, parce qu'il est parfait en tout. Même les ministères que nous avons, ce sont les ministères de Yeshua. C'est pourquoi nous ne devons pas penser que ce que nous avons nous appartient en propre. C'est ce que Paul, l'apôtre, disait, si ce que tu as, si ce que tu dis, tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? D'accord? Pourquoi te glorifies-tu? Mon frère, ma sœur, pourquoi te glorifies-tu? Hein? Voilà. Peut-être que je vais revenir un peu en arrière, lire Genèse 22, non? Attendez, je vais voir. J'ai une pensée de Genèse 22. Je vais lire Genèse 22. Genèse 22. Attendez, je vais voir. Genèse 22. Genèse 22, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Genèse 22. Ah oui, que Dieu éprouva Abraham. Oui, c'est le j'en ai parlé tout à l'heure, c'est à propos de son fils Isaac, la ligature donc de la ligature d'Isaac. Hein, voilà, la ligature d'Isaac. Selon les commentateurs, l'ange de l'Éternel n'est autre que l'Éternel lui-même, parce que Abraham ne pouvait pas obéir à la parole d'un ange. Si Dieu, l'Éternel, lui a dit quelque chose auparavant, voyez, d'aller sacrifier son fils, et que l'ange lui dit non, ne le fais pas, si Abraham ne l'avait pas identifié comme étant Dieu lui-même, il ne pouvait pas obéir. C'est ce que les commentateurs hébreux, juifs, ont laissé comme commentaire. Voilà. Donc, Abraham connaissait ce personnage. Donc, il a identifié comme étant l'Éternel, l'image de l'Éternel, d'Élohim, qu'il voyait, que la personne qui lui a déjà parlé depuis le début jusqu'à maintenant, c'est pour cela qu'il avait obéi. Et cette personne est identifiée comme l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Et cette personne, l'ange énigmatique, l'ange de l'Éternel, prenait des fois la place de l'Éternel et il recevait les sacrifices et il pardonnait même les péchés. Il jugeait, il châtiait également. D'accord? Voilà. Donc, lisons, continuons dans la lecture. Lisons maintenant dans Ésaïe, non, Ésaïe 52. Ésaïe 52. Ésaïe 52, le verset 13. Voyez, mon serviteur prospère et s'élève, grandit et est placé très haut. Voilà. Donc, nous lisons ces versets, mais ça ne nous dit rien. Mais les Juifs, les pauvres, pas les Juifs, mais les rabbins et les commentateurs juste se sont posés des questions. Mais pourquoi trois fois élevé, quoi? Pourquoi ce verset dit trois fois que son serviteur va s'élever? Ce serviteur est identifié au Messie. Est identifié donc au Messie. D'accord? Donc, il est élevé que qui? Qui est plus grand en Israël? Il y a Abraham. Abraham, donc voilà, le premier s'élève et s'élève. Deuxième, c'est qui? Moïse, plus grand que Moïse. Et troisième, les anges. Et c'est ce que confirme l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux a confirmé cette parole. Ouais, d'accord, l'Épître aux Hébreux a confirmé cette parole lorsque il dit. Il est devenu, Hébreux 1, le verset 4, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Voilà, car auquel des anges Elohim a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, ou encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, que tous les anges d'Élohim l'adorent, c'est-à-dire après la croix, ça. Depuis, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des esprits de ses serviteurs une flamme de feu. C'est pourquoi dans Philippiens 2, le verset 9, Philippiens 2, le verset 9, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Yeshua a hérité d'un nom au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse. Philippiens 2, le verset 9. Philippiens 2, le verset 9, c'est pourquoi aussi Ha Elohim l'a souverainement élevé, ça c'est après la croix ça, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans toutes les choses qui sont célestes, dans toutes les choses qui sont terrestres et sous la terre, et que toute langue confesse que Christ, le Messie Yeshua, est Seigneur, à la gloire de Ha Elohim, le Père. Voilà, tout est dit ici, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, nous comprenons mieux maintenant les choses. Vous voyez, la parole de Dieu est comme une chaîne. La parole de Dieu s'interprète elle-même. On n'a pas besoin de l'interpréter. Nous trouvons toutes les réponses dans la parole de Dieu. Et puis également, lisons dans Psaume 16. Psaume 16, attendez, je vais voir. Psaume 16, bon, je lis dans la version. Psaume 16, hein, psaume 16, je lis donc dans la version de Sadokan, donc c'est pas rapide, hein, excusez-moi, mais bon, je ne suis pas très rapide. Parce que bon, je ne l'ai pas en numérique, donc c'est difficile pour moi d'ouvrir les pages. Psaume 16, le verset 10. Car tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol, tu ne laisseras pas tes fidèles voir l'abîme, ou bien tu ne laisseras pas ton serviteur voir la corruption. Je pense que c'est la traduction, ça, si vous n'arrivez pas. Voilà, c'est tu n'abandonneras pas ton serviteur dans la tombe. Oh, voilà, psaume 16. Je vais lire pour que ça soit clair pour tout le monde. Psaume 16, le verset 10. Psaume 16, le verset. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, voie la mort. Et en commentant ce verset dans Actes 13, Acte 13 a commenté ce verset dans que David, qui parlait ainsi, était mort et a été enterré. Voilà, que David ne parlait pas de lui-même et que comme il était prophète, il parlait de qui? Il parlait du Messie. Et le Messie, c'est Yeshua. Très le verset 35, voilà, c'est 35, c'est ça, non? Il dit. C'est pourquoi il dit encore, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Ha Elohim, est mort et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Ha Elohim a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que la délivrance de l'esclavage des péchés vous est annoncée, afin que quiconque croit soit justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la Torah de Moïse. Voilà le commentaire de ce. C'est clair et c'est net, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est comme de l'eau de roche. D'accord? Eux aussi, acte 2, le verset 27, a dit également la même chose. Acte 2, le verset 27. Acte 2, le verset 27 qui dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Voilà, il a encore dit là-bas, c'est confirmé. Donc, voyons que la Bible est cohérente avec elle-même. La Bible a dit les choses à propos de Yeshua. C'était clair et net. Il n'y a pas d'autre alternative parce que Yeshua nous a été donné donc pour servir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et nous avons également lu d'autres livres comme Zacharie 14, le verset 3 et 4, où il est dit que l'Éternel viendra et que ses pieds se poseront. C'est un verset qui pose problème parce que ben, l'Éternel, Dieu est Elohim est invisible, il n'a pas de forme humaine. Donc, la seule Le seul être, la seule personne qui a une forme humaine, c'est le Messie, c'est son représentant, c'est son miroir, c'est son image. Donc les commentateurs juifs ont dit que ça ne pouvait être que le Messie. Mais là-bas, le Messie est venu, on a dit, comme l'Éternel. L'Éternel est en lui. L'Éternel est en lui, comme la Bible nous l'a appris que Dieu Elohim était dans le Messie, était en Yeshua lorsqu'il mourait à la croix. Donc lui-même l'a dit que le Père est en lui et lui est dans le Père et ils sont un. Donc ça ne pose pas de problème en disant que c'est le Messie là-bas, que c'est pas l'Éternel, mais l'Éternel viendra dans le Messie pour sauver Israël. C'est pourquoi on dit que ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, parce que sinon ça pose un problème dans tout ce que la Bible dit, parce que Dieu n'a pas de forme humaine. Ben oui, le seul être qui a été rendu semblable à l'homme, comme nous dit la parole de Dieu, c'est Yeshua, c'est le Messie. Et de la même manière également dans Michée également, ou bien dans Agaï, si vous voulez, dans Agé 2, le verset 9, comme je l'ai expliqué, le premier temple était plus splendide que le deuxième. Mais si on dit que le deuxième temple est plus splendide, il y a une contradiction. Sauf si le Messie de gloire, le Messie qui porte la gloire du Père, est rentré dans le temple. C'est lui qui donne la splendeur au deuxième temple. Hein, d'accord? C'est clair, hein? C'est logique. C'est logique ce que nous sommes en train de dire, mes frères et mes sœurs. Donc, mes frères, donc, bon, je pense que je vous ai un peu éclairé sur qui est Yeshua, qui est, parce que c'est lui, le Messie, il n'y en a point d'autre. Il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Aucun homme, aucun prophète, aucun saint, aucune autre religion ne peut prétendre à ce titre-là, ne peut prétendre à quoi que ce soit. Mes frères et sœurs, ne tremblons pas. Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a point d'autre. Voilà. Donc, la conclusion que nous pouvons tirer de ça, nous venons de prouver, puisque la vérité est établie sur la déposition de deux ou de trois témoins, et que la vérité doit être cohérente avec elle-même. La Bible est cohérente avec elle-même. La Bible est la vérité. La Bible est la vérité absolue. Tout se tient. Tout est cohérent. Il n'en est pas comme d'autres livres dits révélés. Il n'en est pas comme ça. D'accord? Dites révélé. Il y a beaucoup de contradictions, beaucoup d'incohérences, beaucoup d'anachronismes dans les autres livres. Le seul chemin, c'est Yeshua. Donc, mon frère et ma sœur, fortifie-toi et prends courage. Les choses vont devenir de plus en plus difficiles au fur et à mesure que le retour de Yeshua se rapproche. Mais nous devons tous nous accrocher. Nous devons tous serrer les dents, serrer. Nous devons tous vraiment nous accrocher à lui. Parce que sans lui, nous ne pourrons rien faire. C'est maintenant que on verra les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu. Et voilà, les véritables enfants de Dieu, c'est maintenant. C'est quand les choses deviennent difficiles qu'on verra les vrais enfants de Dieu. La Bible n'a pas annoncé de bonnes choses, puisqu'on nous a parlé des vierges insensées et les vierges sages. Et toutes les vierges s'étaient endormies. Donc ça ne sera pas facile dans les derniers temps. Mais nous devons nous accrocher et garder notre lampe allumée avec de la réserve. Les choses vont devenir difficile, mais nous devons nous accrocher. Quant à toi, toi qui n'as aucune relation avec Yeshua, qui conteste son autorité, qui ne crois pas, puisque actuellement dans beaucoup de pays, le paganisme est de retour, même ici en Europe, le paganisme est de retour. On ressuscite les anciennes divinités. En Afrique aussi, c'est comme ça. Partout dans le monde, il y a une remise en cause de la parole de Dieu, de la légitimité de Yeshua. On conteste son autorité. Ça aussi, c'était prédit. Dans le psaume 2, psaume 2e, on lit. Pourquoi se démènent les peuples et les nations agitent-elles de vains projets? Les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et sont oints. Brisons, disent-ils, leurs liens, rejetons loin de nous leurs chaînes. En parlant de liens et de chaînes, les nations, les gens parlent de la parole de Dieu. Voilà qui est la norme, qui les restreint. Voilà qui les restreint. Celui qui réside dans les cieux rit, le Seigneur se raille d'eux, et puis les apostrophe dans sa colère et dans son courroux les terrifie. C'est moi qui ai consacré mon fils roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer ce qui est une loi immuable. L'Éternel m'a dit, une loi immuable. Tu es mon fils, c'est moi qui aujourd'hui t'ai engendré. Demande-le-moi et je te donnerai des peuples comme héritage. Oui, ça s'est fait l'Église, Israël, les confins de la terre pour domaine. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Ça, c'est le jugement que Yeshua viendra mettre sur la terre bientôt. Tu les broieras comme un vase de potier. Et maintenant, ô roi, sachez comprendre, tenez-vous avertis, juge de la terre. Donc, toi aussi, toi qui rejettes Jésus, ou bien qui es dans la religion, qui es dans autre chose, tu ne veux pas venir à la croix pour recevoir le salut. Écoute, servez l'Éternel avec crainte, c'est-à-dire revenez à lui, servez-le. Nous aussi, toi aussi qui es croyant, reviens, serve l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Adorez avec pureté de cœur. Qu'il ne s'indigne et que vous n'alliez à votre perte. Donc, si tu persistes, toi qui m'écoutes, qui n'as aucune relation, qui ne crois pas, qui est dans l'intégrité, l'incrédulité, dans le péché, sache que tu vas à ta perte. Que dit la parole? La parole nous dit dans Romains 10 que la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu Elohim l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ainsi, je t'appelle, je crie, viens, viens à Jésus, viens à lui, viens à Yeshua. Maintenant, c'est le jour de salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole est dans ta bouche. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Yeshua sera sauvé, nous dit la parole. Donc, invoque-le maintenant, confesse tes péchés, repens-toi de tes péchés, confesse-les et détourne-toi de tes péchés. Viens à la croix parce que le Fils d'Élohim s'est offert pour toi, pour tes péchés avant la fondation du monde. Il nous a tous retirés des ornières du péché. Alors viens se joindre à nous. Détourne-toi de tes péchés parce que cette vie t'amène à ta perte. Adorez avec pureté de peur qu'il ne s'indigne et que vous n'alliez à votre perte. Car bien vite sa colère prend feu. Heureux tous ceux qui s'abritent en lui. Avec tout ce qui va venir, la protection est en lui seul. Je répète, avec tout ce qui va fondre sur ce monde, la protection est en Jésus, en Yeshua seul. Hors de lui, point de salut. Hors de lui, point de salut. Mon frère, ma soeur, hors de lui, point de salut. Toi qui m'écoutes, hors de Yeshua, il y a point de salut. C'est pourquoi viens, toi qui appartient à une autre religion et que tu penses que un jour tu iras au paradis. Même les autres prophètes n'ont pas donné d'assurance pour eux-mêmes ni pour leurs suiveurs, leurs adeptes, pour en ce qui concerne le paradis. Mais ici, on nous dit que tous ceux qui s'abritent en Yeshua, dans le Fils, sont heureux et ont la vie éternelle, c'est ce que Yeshua lui-même a dit. Donc, lisons pour terminer, Actes 4, le verset 12. Actes 4, le verset 12. Et après, nous lisons dans le livre des Révélations pour terminer. À conclusion. Acte 4, le verset 12, que nous connaissons tous, hein. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Je répète, Yeshua, celui-là même, est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lisons dans Révélation, ou bien Apocalypse, Révélation, donc 22, Révélation 22, Révélation 22. Lisons Révélation 22 du verset 1 et il me du verset 1 au verset 5 et du verset 20 au verset 21 du verset 19 et il me montra un fleuve de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Ah Elohim et de l'agneau du trône de Ah Elohim et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'aura plus de malédiction. Le trône de Ah Elohim et de l'agneau sera dans la ville. Ses esclaves le serviront et ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que l'Éternel, c'est-à-dire He, Yod He Vav He, Elohim, les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Ha Elohim retranchera sa part du livre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Yeshua. Que la grâce du Messie, le Christ Yeshua, le Seigneur, soit avec nous tous. Amen. V. Amen. Voilà. Voilà, mon frère, ma sœur. J'ai tout dit, voilà. Toi qui m'as écouté, qui as pris ton temps à m'écouter, sache que la conclusion est claire du livre des Écritures, est claire et nette. Voilà. Donc, je n'ai pas à ajouter un commentaire. Jésus, Yeshua, celui qu'on a traduit, on a translittéré son nom, Jésus, Yeshua, Hamashia. Jésus, le Christ, est le seul chemin. C'est lui l'agneau de Dieu. La Bible, l'agneau de Elohim et l'agneau de l'Éternel. Il s'est offert avant la fondation du monde. On nous dit que son trône va sortir, la trône du Père et du Fils sont dans la ville. Et de ce trône sortait un fleuve d'eau vive. Et il y avait un arbre, et que il n'aura pas le trône des deux est dans la ville, et nous le servirons jour et nuit. Nous ne serons même plus dans le temps, puisque le jour et la nuit, il n'y en aura pas. On n'aura même pas besoin de lumière. Et cette lumière que l'Éternel a dit, Or, lumière soit, cette lumière primordiale reviendra de nouveau. Et on n'aura pas besoin d'une autre lumière pour éclairer la ville, pour éclairer le monde qui vient. L'éternité sera lumineuse sur tous les plans. On nous dit qu'il les éclairera et nous verrons sa face. Nous verrons sa face. Aïe, 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 la Bible dit, nous verrons sa face. Et verrons sa face, son nom sera sur le front. Je me suis posé la question. C'est la face de qui que nous verrons? Je sais pas, je pense que c'est la face de l'agneau, la face glorieuse que Jean n'a pas pu supporter. Elle n'a pas pu supporter. Mais là, nous le supporterons parce que nous serons dans l'éternité. Nous serons dans l'éternité, remplis d'esprit, nous serons dans l'éternité. Et nous pourrons contempler la face du Fils sans en être ébloui, sans tomber raide mort à ses pieds. Et là, il nous éclairera et nous régnerons au siècle des siècles. Mon frère, ma sœur, alors accrochons-nous tous afin de parvenir à ce dénouement heureux. Et lorsque la trompette sonnera, que nous puissions être enlevés, ou bien lorsque la mort viendra sur nous, lorsque nous fermerons nos yeux sur ce monde, nous l'ouvrirons dans le monde qui vient. Quel que soit ce qui va se passer, si nous sommes en Yeshua, lui-même l'a dit, celui qui croit en lui ne mourra jamais. Dieu, Elohim, n'est pas l'Elohim des morts, mais des vivants. C'est pourquoi un de ses titres, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mon frère, ma sœur, sois fort, sois fort, sois fort. Fortifie-toi, sois fidèle et saint en toutes choses. Bientôt, notre Messie, notre Machia, vient rapidement mettre fin à la corruption de ce monde, à l'égarement de ce monde. Que son nom soit béni et élevé. Amen et Amen.